Notre Père et notre Dieu, tu as un plan pour tes enfants. Pour chaque personne ici ce soir, tu as un plan. Ton plan, c'est de nous donner plus de vie, la vie en abondance, la vie sous le contrôle de l'Esprit, la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, pour que tu révèles encore ce soir ton plan et que tu nous donnes ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à vous tous et à vous toutes. Que le Seigneur nous bénisse chacun. Que le Seigneur fasse du bien à chacun. Que le Seigneur nous arrache nos soucis. Qu'il nous arrache ce qui nous préoccupe. Que le Seigneur nous débarrasse de tout fardeau. Que le Seigneur nous allège par sa grâce. Que le Seigneur, dans sa puissance, nous bénisse et nous délivre et qu'il nous accorde un moment de paix, un moment de joie, un moment où sa parole va nous faire du bien, un moment où nous serons guéris et libérés par sa parole. Le sabbat, c'est effectivement le temps de la délivrance et le temps de la guérison. En lisant les évangiles, on découvre que beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de miracles ont été opérés le jour du sabbat. Le sabbat, c'est le jour des guérisons par excellence, parce que nous sommes au pied du Seigneur, nous sommes débarrassés de nos tracas, nous comptons sur Dieu, et le jour du sabbat, Dieu fait des miracles pour ses enfants. Aujourd'hui, Dieu nous a fait une bénédiction, et pour cela, nous devons remercier le cœur de louange. Dieu nous a rappelé qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga, qu'il est le Dieu trois fois saint. En effet, Dieu a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga », ce qui signifie très simplement le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous avons un Dieu qui est au début et à la fin. Nous avons un Dieu qui nous entoure, un Dieu qui nous englobe, un Dieu qui dit dans le livre des Psaumes, « Je vous entoure par devant et... » Mais oui, Dieu est partout, Dieu est autour de nous, Dieu est tout le temps présent. Et cela, c'est une bénédiction et une joie de se rappeler cela. Mais vous avez noté que le dernier chant que nous avons chanté disait « Dieu trois fois saint ». Le Dieu qui nous protège est un Dieu alpha, oméga, mais aussi un Dieu trois fois saint. Dieu est un Dieu trois fois saint, et les deux vont ensemble. Je suis l'alpha et l'oméga, et je suis le Dieu trois fois saint. Pourquoi? Parce que nous devons nous rappeler encore une fois dans quel contexte et pourquoi Dieu a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Pourquoi Dieu dit cela? Première raison, nous l'avons vu. C'est pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons en confiance. Vous savez, il y a des gens qui ont 4-5 gardes du corps. Et pourtant, quand même, ils se font tuer parfois. Mais la Bible dit que quand on est enfant de Dieu, on a besoin que d'un seul garde du corps. Parce que ce garde du corps, il est devant, il est derrière, il est sur les côtés et il est au-dessus. Quand Dieu nous dit « Je suis alpha et je suis oméga », eh bien, cela doit créer en nous un sentiment de paix, un sentiment de confiance. Le Dieu qui veille sur moi, il est tout-puissant. Il est omniprésent. Mais le Dieu qui veille sur moi est aussi un Dieu trois fois saint. Regardez avec moi et vous verrez dans quel contexte, rappelons-nous, puisque nous l'avons déjà lu, rappelons-nous dans quel contexte Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dieu le dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. C'est la conclusion de la Bible. C'est la dernière révélation. La dernière chose que Dieu dit, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Il dit, voici, dans Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt. » Et ma rétribution est avec moi. C'est quoi une rétribution? C'est un salaire. C'est une récompense. C'est une manière d'honorer ce que chacun a fait. Reprenons. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quand Jésus revient, il ne donnera pas à quelqu'un ce dont il ne mérite pas. Même si les hommes, même si tes voisins, même si tes frères dans ton église t'ont toujours mal jugé, si au fond tu étais sincère avec ton Dieu, honnête avec ton Dieu, eh bien Dieu ne te considérera pas mal, il verra exactement ce que tu mérites et il te donnera selon ton œuvre. Ce ne sont pas les hommes qui jugent, c'est le Seigneur. Et le Seigneur ne se trompe jamais. Il rend à chacun selon ses œuvres. Et regardez ce à quoi il nous invite pour que nous ne soyons pas déçus lorsqu'il va revenir. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le commencement et la fin. Et qu'est-ce que ce Dieu qui revient, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui nous entoure et qui nous protège, alpha et oméga, qu'est-ce que ce Dieu nous demande de faire? Ce Dieu tout-puissant que tu aimes tant, ce Dieu tout-puissant que nous aimons tant, ce Dieu tout-puissant que tu appelles chaque jour et que tu lui dis, Seigneur, protège-moi. Ce Dieu à qui tu demandes tant de choses, il te demande une chose au verset 14, une seule. Regarde ce que ce Dieu tout-puissant te demande. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Pourquoi? Et d'entrer par les portes dans la ville. Relisons. Le Dieu trois fois saint, le Dieu alpha et oméga, le Dieu qui revient, le Dieu qui te protège, il te dit une chose. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, par les portes, dans la ville. Ce Dieu tout-puissant nous demande à chacun ce soir de laver nos robes. Wow! Est-ce que cela veut dire que Dieu nous demande, pour nous les garçons, de devenir des travestis, de porter des robes et de les laver? Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit « Lavez votre robe pour entrer dans la ville ». Quelle robe on doit laver? Mais nous n'avons pas de robe. Les garçons n'ont pas de robe. Comment on va faire? Ah, cette robe, c'est un symbole. Cette robe, c'est un symbole. C'est le symbole de quelque chose. Dieu dit que les hommes qui veulent entrer dans sa ville sainte doivent laver leur robe, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Donc, au départ, nous sommes au clair que la robe, ce n'est pas le tissu que nous portons sur nous. C'est quoi cette robe qu'on doit laver? Regardez, la Bible va nous le dire. Lisons encore dans Apocalypse 21, verset 27. En parlant de cette ville sainte, la ville sainte dans laquelle on doit laver sa robe pour y entrer. En parlant de cette ville sainte, la Bible dit dans Apocalypse 21, au verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » La Bible dit, si vous voulez entrer dans la ville sainte, il faut laver votre robe. Elle dit aussi, dans la ville sainte, il n'entre personne qui ment, personne qui se livre à l'abomination, personne qui soit souillé. Autrement dit, la robe, finalement, c'est moi, c'est ma conscience, c'est mon intérieur, c'est mon être tout entier. Qu'est-ce que Dieu nous demande ce soir? Dieu nous dit, il faut que vous soyez lavés, il faut que vous soyez purifiés, il faut que vous laviez votre robe pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Cette robe, c'est moi, cette robe, c'est toi, c'est notre conscience, c'est notre vie, c'est notre passé, c'est notre présent, c'est notre avenir. Mais où est-ce qu'on va trouver un savon pour laver ça? Quel savon va laver ça? Regardez, la Bible vous dit, hein, il n'y a pas à réfléchir, hein, La Bible nous dit que le savon peut nous laver, laver nos consciences, laver nos êtres, laver notre passé. La Bible nous dit, regardez, Apocalypse toujours, chapitre 7. Prenez vos Bibles. Si vous n'avez pas une Bible en main, levez la main, vous en recevrez une tout de suite, afin que vous puissiez lire dans la Bible. Apocalypse chapitre 7. Chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Regardez. Et j'attends que tout le monde ait une Bible et que tout le monde trouve. La Bible dit avec quel savon on va laver cela. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse au chapitre 7. Chapitre 7, verset 11. Vous avez trouvé? Et lorsque vous aurez trouvé, vous verrez que nous lirons une description du ciel, une vision du ciel que le prophète a eue. Dieu lui a montré, voici ce qui va se passer dans ma ville sainte pour l'éternité. Voici ce qui va se passer dans mon paradis pour l'éternité. Vous avez tous trouvé? Apocalypse, chapitre 7, verset 11. Lisons ensemble, je vous prie. La Bible dit, « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen !» La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc nous voyons que dans le ciel, il y a une scène de louange et d'adoration. Les anges sont devant le trône, mais est-ce qu'ils sont seuls? Regardez au verset suivant, Apocalypse chapitre 7, et nous lisons au verset, pardon? Ok, vous suivez. Verset 13, et l'un des vieillards prit la parole. Et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Alors le prophète voit les anges, mais apparemment, en plus des anges, il y a des gens qui sont là, mais des gens qui ont des robes blanches. Et voici que quelqu'un lui demande, mais dis-nous, les gens qui sont devant le trône de Dieu, qui ont des robes blanches, c'est qui? Et qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? Je lui dis au verset 14, « Mon Seigneur, mais tu le sais ?» Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » La robe, si elle n'est pas lavée, on ne va pas au paradis. La robe, elle se lave dans le sang de l'agneau. Nous reprenons cela ensemble. La robe, si elle n'est pas lavée, on ne va pas au paradis. La robe se lave dans le sang de l'agneau. La robe, ce n'est pas un vêtement. La robe, c'est ma conscience, c'est mon être, c'est mon passé, c'est mon présent, c'est mon avenir. Autrement dit, quiconque veut entrer dans le paradis de Dieu doit se tremper, se laver dans le sang de l'agneau. Et j'aimerais poser tellement cette question. Si je demandais à voir les mains de ceux qui disent ce soir, je n'ai aucune prétention d'aller au paradis, ça ne m'intéresse pas d'être devant le trône de Dieu pour l'éternité, laissez-moi voir les mains de ceux qui disent, je ne veux pas être auprès du trône de Dieu. Personne. Et alors, si je posais cette nouvelle question, est-ce que je peux voir les mains de ceux qui aimeraient passer leur vie éternelle devant le trône, chanter des louanges, poser des questions à Jésus, retrouver leur bien-aimé? Laissez-moi voir ces mains-là. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Par conséquent, mes chers amis, si nous disons que nous voulons être au paradis, nous disons aussi, je veux laver mon vêtement dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. Comment est-ce qu'on lave son sang comment est-ce qu'on lave sa robe dans le sang? Vous savez, cette histoire, elle existe depuis l'Ancien Testament. Depuis toujours, l'homme doit laver sa conscience, son passé, son présent et son avenir dans le sang de l'agneau. Prenez vos Bibles. Regardez avec moi, je vous prie. Le livre du Lévitique au chapitre 4. Donc vous avez la Genèse, l'Exode et le Lévitique, troisième livre de la Bible. C'est au tout début, Lévitique chapitre 4, Genèse, Exode et Lévitique. Lévitique au chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Quand vous avez trouvé le chapitre, lisez avec moi à partir du verset 22. La Bible dit, comment est-ce qu'un être humain, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a besoin de laver sa conscience, lorsqu'il a besoin de laver sa robe, lorsqu'il a besoin du pardon de ses péchés, la Bible dit ce qu'il doit faire. Lévitique 4, verset 22. Vous y êtes? Alors nous lisons tranquillement. La Bible dit, si c'est un chef qui a péché, vous avez vu par quoi nous commençons? Nous ne commençons pas par un homme du peuple, on commence par un chef. Autrement dit, tout le monde a besoin de laver sa robe. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois chef, que tu sois haut placé, nous tous, nous avons besoin de laver nos robes. Nous tous, nous avons besoin du pardon de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 4, verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, qu'est-ce qu'il doit faire? Il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Et comment ça va se passer? Donc celui qui a péché, il cherche un bouc. Mais vous avez vu si c'est un chef. Le chef, on lui demande un bouc. Pourquoi on lui demande un bouc? Parce qu'automatiquement, le chef est plus riche. Il a plus de moyens. Il peut s'offrir un bouc. Le bouc est plus cher. Et vous verrez tout à l'heure qu'on demande autre chose aux autres. Il prend un bouc et il l'offre en sacrifice. Comment ça se passe? Regardez bien. C'est super intéressant. Verset 24. Quelle est la première chose qu'il fait quand il emmène le bouc? Quelle est la première chose qu'il fait? Il posera sa main sur la tête. Pourquoi il fait ça? C'est important de comprendre cela, mes amis. Si nous n'avons pas compris cette phrase, nous ne comprenons pas comment le pardon fonctionne. Pourquoi il pose la main sur la tête du bouc? Parce qu'en réalité, posons-nous une première question. Qui a péché, le bouc ou l'homme? Mais qui on va sacrifier? Je reprends la question. Qui a péché, le bouc ou l'homme? L'homme. Qui on va sacrifier? Le bouc. Mais alors, comment est-ce que le bouc sacrifié va faire que l'homme pécheur ait son pardon? C'est justement parce que le pécheur, il impose la main sur la tête du bouc. Et quand il fait ce geste, il prie, il confesse ses péchés. Et ce qui va se passer, le bouc ne devient pas pécheur parce que le bouc n'a pas péché. Mais son péché est porté sur le bouc. Le bouc ne devient pas pécheur, le bouc devient péché. Je reprends cette phrase. Le bouc ne devient pas pécheur, le bouc devient péché. Et regardez la suite. Regardez bien la suite. Verset 24. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel, c'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Donc quand l'homme vient avec le bouc, qui c'est qui tue le bouc? Quelle personne qui tue le bouc? C'est le prêtre ou c'est le pécheur? Pardon? Non! Celui qui sacrifie le bouc, c'est le pécheur. Il amène le bouc, il confesse ses péchés, et la Bible dit, il sacrifiera le bouc. C'est lui qui tue le bouc. C'est lui qui a péché. C'est lui qui devrait mourir. Mais il dit au Seigneur, normalement, j'ai péché, je dois mourir. J'ai péché, j'ai sali ma robe, j'ai sali ma conscience, j'ai sali ma vie. Mais Seigneur, tu acceptes que je donne à ma place un bouc. Le bouc est innocent, le bouc n'a rien fait, mais il meurt à ma place. C'est à cause de moi qu'il meurt. Et vous lisez avec moi, mes chers amis, que lorsque l'homme a fait cela, le sacrificateur vient, il fait des manipulations, il fait des choses, et après, il nous est dit que son péché est pardonné. Regardez au verset suivant. Nous sommes à Lévitique chapitre 4, verset 26. Nous lisons. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour le chef l'expiation de son péché, et il lui sera, oui, mes amis. Quand tout ça est fait, le pécheur, quand il repart, comment est-ce qu'il repart? Il repart pardonné, parce qu'il sait qu'il a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Il a versé le sang de l'agneau pour le pardon de ses péchés. Mais dites-moi, mes amis, aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons laver nos robes dans le sang de l'agneau? Eh bien, la Bible nous éclaire. Et maintenant, nous lisons des parties extraordinairement belles de la Bible. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean au chapitre 4. Nous lisons. 1 Jean au chapitre 4. Une partie extraordinaire de la Bible. Regardez avec moi, mes chers amis. Ceci, c'est vraiment la porte d'entrée dans le paradis. Ceci est vraiment la manière de laver sa robe, la porte d'entrée pour la vie éternelle, la délivrance. Dans l'Ancien Testament, le pécheur emmène un bouc, si c'est un chef. S'il n'est pas un chef, il est moins riche, il peut emmener une femelle. Et vous verrez que vraiment les pauvres, si vous lisez tout le chapitre 4, ils peuvent même emmener des oiseaux. L'important, c'est que du sang soit versé. Mais c'est encore mieux maintenant. Parce que lisez avec moi, 1 Jean 4, versets 9 à 10. La Bible dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et le verset 10 dit quoi? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mes chers amis, j'aurais tellement voulu que nous puissions vraiment nous réveiller et ouvrir les yeux pour comprendre cela. Que nous puissions être attentifs, parce que si nous ratons ça, nous ratons le plan du salut. Le plan du salut, c'est que quand quelqu'un a péché, normalement, il doit mourir. Mais Dieu qui est tellement bon, il dit, je n'excuse pas le péché. Je ne fais pas comme si ça n'existait pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un doit mourir quand on a péché. Mais il dit, je suis tellement bon, je fais grâce, j'accepte la mort d'un innocent, mais à condition que le coupable se joigne à l'innocent, qu'il fasse une alliance avec l'innocent, et le péché qu'il avait est transféré sur l'innocent, et ses péchés sont pardonnés. Et cette victime expiatoire, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de prendre un bouc, nous n'avons pas besoin de prendre une chèvre, nous avons besoin de prendre Jésus, parce que Jésus est venu comme une victime expiatoire pour nos péchés. Regardez encore ce que la Bible dit. La Bible dit encore une chose belle dans 2 Corinthiens 5, au verset 21. Regardez bien, mes amis, car j'aurais aimé que nous puissions comprendre cela sans nous disperser. Regardez bien ce que la Bible dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. La Bible dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous notez bien, il n'est pas dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur. » Ce n'est pas ce qui est dit. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. » Pas pécheur. Parce que, mes amis, est-ce que Jésus a jamais été pécheur? Est-ce que Jésus est devenu un pécheur? Non. Mais pourtant, bien que Jésus n'a jamais péché, Jésus est devenu péché. Pourquoi? Parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Jésus a pris tous les péchés des hommes. Il porte tous les péchés des hommes. Jésus est ce bouc innocent qui n'a jamais péché. Mais ce bouc, il dit au coupable, « Si tu viens et si tu fais alliance avec moi, comme dans l'Ancien Testament, si tu poses la main sur ma tête, si tu confesses tes péchés, si tu me donnes tes péchés et si tu veux prendre ma justice, je prends ta place, je meurs pour toi et toi tu vis à ma place. » Mais vous avez bien noté, Jésus ne nous dit pas seulement qu'il prend nos péchés. Mes amis, il faut que vous compreniez cela, mes chers amis, parce qu'il ne faut pas que nous comprenions mal la grâce de Dieu. Regardez bien ce qui est dit dans le verset. Je relis pour vous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, quoi? Justice de Dieu. La grâce, ce n'est pas seulement que je donne à Jésus mes péchés. La grâce, c'est que je donne à Jésus mes péchés, mais je prends la justice de Jésus. Autrement dit, quand je suis gracié, quand mes péchés sont confessés, je dis, Seigneur, prends mon péché, mais je dis aussi, Seigneur, change ma vie. Je dis, Seigneur, prends mon péché, mais apprends-moi à ne plus aimer le péché. C'est pour cela que toute prière de repentance sincère, dans une prière de repentance sincère, on dit, Seigneur, pardonne mon péché, mais on dit aussi, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Donne-moi la force par ton Saint-Esprit. Aide-moi à étudier la Bible. Aide-moi à prier davantage pour que je ne puisse pas rester dans ce péché. Certainement que vous connaissez cette histoire que je raconte souvent pour illustrer cette vérité. D'un homme qui est descendu pour qu'on prie pour lui, pour qu'on prie avec lui, parce qu'il voulait confesser ses péchés. Et quand il a tout dit, il a parlé avec ses frères, il a avoué ses péchés. Alors les frères lui ont dit, mettons-nous à genoux, on va prier pour toi. Et les frères ont commencé à prier avec lui, en énumérant tout ce qu'il avait dit. Les frères ont commencé à dire, Seigneur, tu vois, il a dit lui-même qu'il a menti. Il a confessé, il veut son pardon, aide-le Seigneur. Il a dit lui-même Seigneur qu'il a triché au travail, aide-le. Et ils ont énuméré tout, ils ont prié avec lui. Et lorsque le frère allait bientôt dire Amen, il a senti que le frère allait dire Amen. Il a dit au frère, écoute, attends, ne dis pas encore Amen. Alors le frère lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce que, quand je venais à l'église, quand je venais pour prier avec vous, en descendant, j'ai vu que le voisin a un bélier magnifique. Et comme je sais déjà qu'au retour, je vais le voler, mets-le déjà dans la confession. Ça, c'est une confession, pas vrai? Ça, c'est une prière de confession? Ça, c'est quelqu'un qui lave son vêtement dans le sang de Jésus? Ça, c'est quelqu'un qui lave sa robe dans le sang de l'agneau? Non, parce qu'au moment où il confesse le péché, il a un plan pour un péché déjà. Mes chers amis, il faut que chacun de nous prenne le temps de réfléchir tranquillement maintenant. Et que chacun se demande, est-ce qu'en quelque part, ce n'est pas comme ça que je confesse mes péchés? Pendant que je confesse, mais j'ai déjà un plan pour un autre péché. Je reconnais la bonté et la grandeur de Jésus. Je confesse, mais je ne suis pas prêt à abandonner tout. Si c'est comme ça, tu n'as pas accepté Jésus. Parce que accepter Jésus, c'est prendre sa justice et lui donner nos péchés. Par conséquent, toute prière de confession sincère comporte une partie où on prie pour la victoire sur le péché. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je vais abandonner. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je ne vais plus. Je ne veux plus. Mais vous savez une chose, quand on dit « je ne veux plus », il faut prendre les mesures pour ne plus. Parce que si je dis « je ne veux plus avoir de la boue sur mes chaussures » et je m'arrange toujours pour passer dans une route où il y a de la boue, qu'est-ce qui va m'arriver? J'aurai toujours de la boue sur mes chaussures. Je dis « Seigneur, je veux quitter l'alcool », mais il y a deux routes pour aller à mon travail, une où il n'y a pas de bar et une où il y a quatre bars. Où est-ce que je vais passer si je dis vraiment « je veux quitter l'alcool » Je vais prendre la route où il n'y a pas de bar, parce que je sais très bien que j'ai cette faiblesse et qu'en passant devant le bar, je risque de tomber. Mais vous savez, plus nous avançons, plus nous nous regardons, si nous sommes sincères, mes amis, quelquefois, vous savez ce que nous voulons? Nous voulons que Jésus nous sauve dans le péché. Nous voulons que Jésus nous sauve comme nous sommes. Nous entendons tout ce que Jésus dit, mais nous disons, je ne suis pas prêt, je ne change pas. Oh, mes chers amis, ce n'est pas ça la justification par la foi. La justification par la foi, ce n'est pas que Dieu me fait grâce seulement. La justification par la foi, Dieu me fait grâce, mais Dieu me rend juste. Dieu me donne la victoire sur le péché. Et regardez encore, vous verrez que la Bible dit des choses encore plus fortes et plus belles concernant cela. Regardez avec moi, dans l'Épître aux Hébreux, ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 9, verset 13. Regardez avec moi ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14, la Bible dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. » Poursuivons. « Sanctifie et procure la pureté de la chair. » Donc je reprends pour que ça soit plus fluide. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Ensuite, combien plus le sang de Jésus, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Mes amis, c'est ça. La justification par la foi. La justification par la foi, c'est que je me dis, dans l'Ancien Testament, il y avait des boucs, des agneaux, des animaux qui étaient sacrifiés. Et les gens, quand ils partaient en disant, « Mon péché est pardonné. Mais j'ai mieux qu'un bouc, j'ai mieux qu'une vache, j'ai Jésus. » Et Jésus, mieux que le bouc, mieux que la vache, le sang de Jésus, verset fait que tu as le pardon de tes péchés. Mais quand tes péchés sont pardonnés, quand nos péchés sont pardonnés, c'est pour quoi faire, mes amis? C'est pourquoi nous vivions comme nous voulons. C'est pourquoi nous marchions d'après nos pulsions. C'est pourquoi nous marchions d'après nos habitudes. Quand le sang de Jésus a été efficace et que mes péchés sont pardonnés, c'est pour que vous puissiez servir le Dieu vivant, mes amis. C'est ça la justification par la foi. Jésus prend mes péchés, mais Jésus me rend capable de le servir, de marcher avec lui, de lui appartenir. Oh, mes chers amis, il ne faut pas que nous puissions voir la grâce de Dieu à demi. Il ne faut pas que nous puissions considérer le plan du salut à demi. Laver sa robe, ce n'est pas seulement confesser ses péchés. Laver sa robe, c'est confesser les péchés et délaisser le péché. Laver sa robe, c'est croire que Jésus pardonne mes péchés, mais croire aussi que Jésus me donne la victoire sur le péché. Et je voudrais que ce soit tellement clair, parce que il y a parfois un enseignement à demi qui est donné sur la grâce. Jésus fait grâce, Jésus pardonne, point barre. Mais ce n'est pas l'enseignement de la Bible. L'enseignement de la Bible est plus complet. Oh, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, lorsque le pécheur venait pour le pardon de ses péchés, rappelons-nous Lévitique 4, verset 29. Avançons et rappelons-nous cela. Lévitique 4, verset 29. Qu'est-ce qu'il faisait le pécheur quand il venait? La Bible dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Mais j'aurais tellement aimé poser une question à la Bible. Ma victime expiatoire maintenant, votre victime expiatoire maintenant, c'est Jésus. Mais comment est-ce que nous allons faire pour nous identifier à Jésus? Parce que vous voyez, quand il pose la main sur l'animal, il dit, Seigneur, cet animal prend ma place, cet animal prend mes péchés. Il fait un acte où il va s'identifier avec l'animal. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous et moi, nous pouvons nous identifier à Jésus? Comment est-ce que nous pouvons rejoindre Jésus? Comment est-ce que nous pouvons lui imposer les mains? Comment est-ce que nous pouvons dire, cet animal meurt pour moi? Comment est-ce que je peux dire, Jésus meurt pour moi? Comment est-ce que je peux dire, le sang versé me purifie? Comment est-ce que je peux dire ça? Où est-ce que je peux trouver la tête de Jésus pour lui imposer les mains? Parce que c'est Jésus qui est notre victime expiatoire. Où est-ce que je trouve Jésus pour lui imposer les mains? Eh bien, mes amis, là encore, la Bible est claire. Le système n'a pas changé. Celui qui veut le pardon, celui qui veut la vie éternelle, il doit toujours s'identifier avec l'agneau. Mais comment est-ce que nous allons nous identifier avec l'agneau? La Bible le dit clairement dans Colossiens 2, versets 12 à 13. La Bible dit clairement comment est-ce que je vais imposer les miens à l'agneau? Comment est-ce que je vais m'identifier à l'agneau? La Bible dit dans Colossiens 2, versets 12 à 13, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Lorsque je me baptise, c'est comme si j'impose la main à Jésus. Je rejoins Jésus, je fais corps avec Jésus. Parce que la Bible dit que le baptême véritable, on plonge le pécheur. Quand on plonge le pécheur, il dit, je me souviens que Jésus est mort pour moi. Je meurs moi aussi, je meurs au péché. C'est Jésus qui est mort pour moi. Je meurs avec lui. Et quand on le relève, celui qui est baptisé, il est relevé pour quoi faire? Comment? Pardon? Il est relevé pour quoi faire? Pour être ressuscité avec Jésus. Si vous venez demain matin, quand nous aurons le baptême, vous verrez que le pasteur qui baptise demande au baptisé de tenir son bras avec ses deux mains. Et il les plonge totalement. Mais
j'aime bien quand ils me tiennent le bras avant de les plonger. Parce qu'une fois, un homme se baptisait, il a tenu avec une main, la main gauche, et la main droite, il n'a pas tenu. Et quand on l'a plongé, il a serré son poing, il a levé la main droite, et il a laissé le poing droit hors de l'eau. Et quand on l'a relevé, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, pasteur, je vais baptiser comme moi, mais où est Tala? Je ne vais pas baptiser Tala parce que c'est puis ça, je vais régler les affaires. Moi. Il est baptisé, mais en même temps qu'il est baptisé, c'est comme s'il veut dire, Seigneur, je vais avoir toutes mes souhaits, Timoso Tala, le poignet droit. Et le point droit, non, ça je ne baptise pas ça, Seigneur, parce que c'est avec ça que je règle mes problèmes. Donc il est baptisé, il veut bien le pardon de ses péchés, mais il veut rester libre, après le baptême, de vivre comme il veut, de régler ses problèmes comme il veut. Non, ce n'est pas ça. La Bible est claire, lorsque je suis baptisé, je meurs avec Jésus. Et quand je suis relevé, je ressuscite avec Jésus. Mais je suis ressuscité pour quoi faire? Le verset 13, lisons. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Ensuite, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Lorsque je suis baptisé, j'ai l'assurance que tous mes péchés sont pardonnés. Mais je devrais aussi avoir l'assurance qu'à partir de ce jour, une vie nouvelle commence. Une vie au service du Seigneur. Une vie de justifié. Je suis justifié. Je marche avec Dieu. Oh, mes chers amis, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que le baptême, c'est important? Est-ce que le baptême, c'est important? Le baptême n'est pas important. Le baptême est indispensable. Le baptême n'est plus qu'important. Il est indispensable. C'est plus qu'important. Parce que le pécheur qui avait péché, s'il venait dans le sanctuaire et qu'il disait au sacrificateur, « Mis en bouc, sacrifiez ça, moi, quand il faisait affaire, moi. » S'il faisait ça, est-ce que ses péchés étaient pardonnés? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris le temps de prier, de confesser ses péchés, de s'identifier avec le bouc. Vous savez que des fois, nous traitons Jésus comme ça. Nous disons, Seigneur Dieu, mis en bouc, mais moi, je vais faire affaire moi. Seigneur, voici, il y a un sacrifié là, il y a un Christ qui est mort pour moi, mais je fais mes affaires. Je ne m'identifie pas avec lui. Je ne lâche rien pour Jésus. Oui, j'aime Jésus. Mais je ne lâche rien pour lui. Je ne change rien dans ma vie, rien dans ma manière de m'habiller, rien dans ma manière de manger, rien dans ma manière de parler, rien dans mes activités. Mais Seigneur, mis en boucle, mais moi qui fais ça, fais moi. Et je n'aimerais pas dire cela seulement pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. J'aimerais surtout et aussi le dire pour ceux qui sont déjà baptisés. Que ceux qui sont déjà baptisés sachent que lorsqu'on est baptisé, on ne vit plus pour soi-même, mais pour le Seigneur. On ne vit plus comme on veut, mais comme veut le Seigneur. On ne vit plus sur la dictature du péché, mais sur la dictature de la justice du Christ. On ne vit plus sous le commandement de mes pulsions, de mes croyances, mais sous le commandement du Saint-Esprit de Dieu que je recherche chaque matin. Et si chacun de nous réfléchissait, chaque croyant réfléchissait, combien de temps est-ce que tu passes chaque jour pour chercher le Saint-Esprit, chercher ses conseils, lire la parole de Dieu, afin que tu marches selon la parole de Dieu? Oh, mes chers amis, tout ce que nous disons là, c'est capital. C'est capital. Et j'aimerais dire en toute sincérité à ceux qui hésitent à se faire baptiser, vous n'avez pas le choix si vous voulez être sauvé. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix si vous voulez être sauvé. Lisez toute la Bible. Vous ne trouvez personne qui a accepté Jésus et qui n'a pas été baptisé. Il y a un seul qui a accepté Jésus et qui n'a pas été baptisé. C'est le larron sur la croix. Un seul. Pourquoi il n'a pas été baptisé? Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. Mais il n'était pas matériellement possible qu'il soit baptisé. Parce que lorsqu'il a accepté Jésus, il est cloué sur la croix. Il est mort là. Mais lisez toute la Bible, mes amis. Personne n'a accepté Jésus et n'a pas été baptisé. Personne ne peut dire, j'ai accepté Jésus, mais je ne me fais pas baptiser. Si tu ne te fais pas baptiser, c'est comme si tu viens au sanctuaire et tu dis au sacrificateur, mis en bouc, sacrifiez ça à moi, mais moi, je vais faire moi. Pour que le bouc soit efficace, pour que le sang versé soit efficace, il faut que tu t'arrêtes auprès du bouc. Il faut que tu pries, que tu lui imposes les mains, que tu le sacrifies toi-même. Et là, le sacrifice devient valable. Pour que le sacrifice de Jésus soit valable pour toi, il faut que tu viennes et que tu t'identifies à Jésus. Et la Bible te dit, dans Colossiens 2, la manière de t'identifier à lui, c'est en étant baptisé. Quand tu es baptisé, tu meurs avec lui, tu ressuscites avec lui. Tu t'identifies à lui. Tu fais corps avec lui. Regardez ce que la Bible dit. Rappelez-vous, la Bible disait dans Apocalypse, au tout début, quand nous avons lu, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe. Si tu veux être heureux, il faut laver ta robe. Mais comme je vous ai dit, toute personne qui dit « je veux entrer dans cette ville sainte, je veux entrer dans ce paradis », doit obligatoirement accepter Jésus comme sauveur. Ayant accepté Jésus comme sauveur, je fais une alliance avec lui par le baptême. Je m'identifie à lui. Quand je me baptise, mes péchés, Jésus les prend et je prends sa justice. Il me donne le Saint-Esprit. Il me donne la force pour ceux qui sont sincères de mener une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et la preuve, regardez ce qui avait été dit à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un jour, il a rencontré Jésus alors qu'il était persécuteur. Lorsqu'il a rencontré Jésus, alors qu'il était persécuteur, on lui dit, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Il dit, oui, j'accepte Jésus. Oui, c'est bon, j'accepte Jésus, je reconnais qu'il est le Seigneur. Et quand il dit ça, regardez ce qu'on lui dit. Dans Actes 22, au verset 16, on lui dit très simplement, et maintenant que tu as dit que tu as accepté Jésus, maintenant que tu as dit que tu aimes Jésus, maintenant que tu dis, je prends Jésus comme mon agneau, je prends Jésus comme mon sauveur, maintenant que tu as dit ça, que tardes-tu? Pourquoi tu tardes? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu tardes? Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Vous voyez la similitude de vocabulaire? Celui qui lave sa robe entre dans le paradis. Vous voyez ce qu'on dit à Paul? Lève-toi et sois lavé de tes péchés. C'est le même vocabulaire. Pourquoi c'est le même vocabulaire? Parce qu'on parle de la même chose. Laver sa robe, c'est accepter Jésus. C'est purifier sa conscience. Et cela se fait quand j'accepte Jésus. Cela se fait quand je vais jusque dans les eaux du baptême avec Jésus. Cela se fait quand je ne commande plus moi-même, mais quand je dis Jésus, c'est toi qui commandes, c'est toi qui prends le pouvoir. Tu as dit qu'il faut être baptisé. Je veux être sauvé. Oh, mes chers amis, il ne nous faut plus continuer comme cela. Continuer à dire j'aime Jésus. J'aime Jésus, je veux être sauvé. J'aime Jésus, je l'accepte. D'accord? J'aime Jésus, je l'accepte. Mais si tu l'acceptes, tu fais tout ce qu'il a demandé, y compris le baptême. Y compris le baptême, c'est Jésus qui a dit. Jésus a donné l'exemple en se faisant lui-même baptiser. Et Jésus lui-même dit, quand vous vous baptisez, vous vous identifiez à moi. vous prenez, vous faites corps avec moi. Et ce soir, j'aimerais que tous les enfants du Seigneur qui sont sincères, qui sont là, puissent dire, voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Jésus ouvre une porte pour toi ce soir. Jésus ouvre la porte du paradis pour toi ce soir. Jésus est en train d'ouvrir la porte du paradis et il te montre la porte. Il te montre l'entrée. Jésus dit, ce soir, me voici. J'ouvre une porte pour toi. J'ouvre la porte pour toi. Mais Jésus te dit, si tu veux rentrer dans cette porte, il faut que tu laves ta robe. Il faut purifier ta conscience. Il faut prendre ma justice. Il faut changer de vie. Oh, ne t'inquiète pas comment tu feras. Le Saint-Esprit est assez puissant pour le faire pour toi. Il est assez puissant pour le faire avec toi. Oh, dis au Seigneur, oui Seigneur, je veux entrer dans cette porte. C'est pourquoi Seigneur, je lave ma robe. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Jésus dit, merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent la paix. Elle introduit les malheureux. Sur la céleste voie. Et je dis quoi à Jésus? Merci Jésus. Avant de poursuivre le chant, j'aimerais inviter en toute simplicité, sans vous donner l'impression de faire aucune pression. Mais les choses sont tellement claires, limpides et belles qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot et on n'a pas besoin de faire pression. J'aimerais inviter en toute simplicité ceux qui veulent dire, Seigneur, je veux laver ma robe, je veux t'appartenir. Même si nous disons, Seigneur, aujourd'hui, je ne vois pas encore comment, je ne sais pas encore comment, il y a un problème que je dois régler. Mais je sais, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que tu me donnes la force pour que je me prépare, pour que je sois baptisé en ton nom. Peut-être demain, peut-être le 25, peut-être quand j'aurai arrangé les choses, mais ce soir, je veux commencer la démarche. S'il y a quelqu'un qui veut dire cela au Seigneur et qui veut recevoir l'aide de Dieu, qui veut recevoir le soutien du Seigneur, je t'invite à te lever, à t'avancer, à venir jusqu'ici. Et nous prierons pour toi. Nous prierons avec toi. Quand le pécheur emmenait son agneau au sanctuaire, il ne venait pas la nuit, il ne se déguisait pas, il ne faisait pas éteindre les lumières pour venir au sanctuaire. Le pécheur venait en plein jour. Il ne faut pas avoir honte de Jésus, mes amis. Si vous acceptez Jésus ce soir, si vous dites oui à Jésus pour votre sauveur, si vous voulez que Jésus lave votre passé, votre conscience, qu'il vous délivre, oh, je t'en supplie, mon ami. Lève-toi et viens. Viens en disant, je veux appartenir à Jésus, qui que tu sois. Qui que tu sois, tu sais que tu as besoin de cette grâce avant longtemps. Tu as besoin de laver ta robe dans le sang de Jésus. Tu as besoin d'être baptisé. Tu veux être au paradis. Alors lève-toi et avance-toi jusqu'ici et le Seigneur a des bénédictions pour toi. Et je demande au personnel de l'accueil de venir pour nous entourer, aux anciens de venir. Avancez-vous. Et nous vous donnerons aussi, pendant le chant, une fiche. Vous allez la remplir, cette fiche. Nous la laissons. Nous allons vous contacter et prier avec vous. Et nous poursuivons notre chant. Répondons au divin appel. Avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Alléluia pour ceux qui se lèvent, et que le Seigneur soit béni, et que le nom de Jésus soit glorifié. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous parce que vous l'acceptez dans sa grâce. Maintenant et après le chant, après la prière, nous reprendrons la première strophe du chant. Cette première strophe qui disait « Jésus te dit, viens et suis-moi ». Cette première strophe, nous allons la chanter après la prière. « Voici Jésus, notre Sauveur, qui te dit, viens et suis-moi ». Et ce soir, Jésus dit à ses enfants « Venez et suivez-moi ». Suivez-moi jusque dans les eaux du baptême. Suivez-moi jusque dans le royaume de Dieu. Je vous y attends. Et j'ai préparé cette grâce pour vous. Oh, mes chers amis, je vous en supplie, avant de partir, remplissez votre fiche. Dites oui à Jésus. Permettez-nous de vous visiter. Permettez-nous de prier avec vous. Permettez-nous de prendre le temps qu'il faudra pour vous préparer. Mais permettez que le Seigneur voie ce soir que vous prenez une décision pour lui. Nous voulons nous incliner et prier. Notre Père et notre Dieu, notre bon et tendre Sauveur, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Mais la Bible dit que tu es aussi le bon berger. La Bible dit que tu es la porte par laquelle les brebis entrent. Et ce soir, notre Dieu, tu as été bon avec nous parce que tu nous as dit tout. Tu nous as révélé quel plan tu as pour nous. Tu veux que nous soyons dans ton paradis avec toi. Tu veux, Seigneur, que nous soyons sauvés. Tu veux, Seigneur, que nous puissions vivre avec toi une vie sans fin jusque dans l'éternité, une vie sans encombre. Oh, merci, Seigneur, pour ce plan. Merci pour cette proposition. Merci pour ce cadeau. Mais tu nous dis aussi que rien de souillé ne va entrer dans cette ville. Tu nous dis aussi, Jésus, que rien de souillé ne va traverser la porte du paradis. Tu nous dis, heureux ceux qui lavent leur robe, car ils verront le Seigneur, ils auront la paix et la vie éternelle. Seigneur, ce soir, tes enfants qui ont déjà lavé leur robe, qui se sont déjà baptisés, qui ont déjà accepté Jésus, tes enfants te prient et te disent, Seigneur, depuis que nous avons été baptisés, peut-être que nous avons erré, peut-être que nous n'avons pas toujours été avec toi, peut-être que nous avons marché loin de toi, mais ce soir, nous te demandons pardon, Seigneur. Ce soir, nous te demandons pardon pour nos péchés et nous te disons à partir de maintenant, nous avons compris ce qu'est la justification par la foi. Nous avons compris que nous devons vivre pour toi, vivre pour te servir et ne pas vivre comme nous voulons. Sinon, nous passons notre temps à l'église et le jour où tu reviendras, malgré cela, nous serons perdus. Nous n'irons pas au paradis. Ce soir, Seigneur, tes enfants qui n'ont pas encore été baptisés te prient et te disent, « Ô Jésus, ô doux Jésus, nous voulons venir devant toi. » Et nous voulons recevoir ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons que tu nous accordes le pardon de nos péchés. Nous voulons te prendre comme notre agneau, notre victime expiatoire. Nous voulons, Seigneur, faire alliance avec toi. Et le seul chemin, c'est le baptême. tu avais dit à Paul, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé pour le pardon de tes péchés. Ô Seigneur, ce soir, tu dis cela à tous les hommes qui entendent ta parole, à toutes les femmes qui entendent ta parole, à tous les jeunes, tu leur dis, que tardes-tu? Pourquoi tu dis m'aimer? Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce une relation? Est-ce une personne? Est-ce un bijou? Qu'est-ce qui te retient? Oh, je t'en supplie, considère ce que tu laisses passer si tu n'abandonnes pas tout pour me suivre. Mais Seigneur, ce soir, je te prie, je te supplie, dans le nom de Jésus, envoie ici et maintenant ton Saint-Esprit. Envoie ici et maintenant ton Saint-Esprit pour que nous puissions ne plus faire marche arrière, ne plus nous abandonner à toi, ne plus t'appartenir, pour que nous ne puissions plus te dire « Je vais venir après, je vais venir l'année prochaine », que nous puissions dire « Seigneur, j'ai compris, tu m'as fait du bien et ce soir je te donne ma vie. Ce soir je prends la décision d'être baptisé. Ce soir je commence un processus avec toi. Ce soir j'entre dans une dynamique et je ne veux plus retourner en arrière. Ô Seigneur, envoie ton esprit dans ce lieu. Envoie ton esprit sur tes enfants. Envoie ton esprit pour nous purifier. Envoie ton esprit pour nous délivrer de nos craintes. Seigneur Dieu, tu béniras cette assemblée. Tu nous béniras et tu nous feras prendre une décision pour toi, car nous avons besoin d'être sauvés. C'est la grâce que nous te demandons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle, Amen.